Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous avons vu donc comment la faire, on a avancé pas à pas, les certitudes qui me permettent de savoir quelle est mon identité, de rester dans cette identité claire et nette, de savoir qui je suis en Christ. On a vu hier soir, ce matin, nous avons avancé un pas, la croissance spirituelle, qui vient du fait que nous devons grandir, croître en Christ lui-même. Et l'après-midi, nous avons abordé un peu le règne de l'homme spirituel, c'est-à-dire comment régner par l'esprit, comment marcher par l'esprit. Je crois que ce qui est important, c'est cette réflexion qui va nous permettre, quand nous allons nous séparer, de nous asseoir dans un temps tout seul et comme les boutons le font, ressortir toutes ces choses-là et les ruminer tout juste. Car au moment où nous parlons dans une salle comme celle-ci, il y a parfois des tensions, des stress, parce que nous n'avons pas le temps de réfléchir à tout ce qui est entendu. Il est bon que un temps de retraite mis à part, avec les cassettes et les notes, cela peut nous permettre d'aller plus en profondeur que ce que nous avons vu ici. Et j'ai l'assurance que votre communauté, comme on l'a fait la semaine dernière en Suisse avec le Forum des Hommes, là, tout juste j'étais 15 jours en Suisse avec le Forum des Hommes, ils étaient à un tournant aussi important du Forum des Hommes en Suisse. Alors, nous sommes allés, on a partagé pour que vraiment les hommes reprennent leur place comme cela convient. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, avec les témoignages que j'ai entendus ces quelques jours, ces derniers jours, je sais que Dieu nous a fait grâce et nous a secourus pendant ce temps que nous avons passé en Suisse. Maintenant, ce soir, c'est bien que je puisse savoir comment avoir la révélation sur le vieil homme qui a été crucifié. Formidable, c'est bien. C'est bien de savoir comment marcher selon l'esprit et non selon la chair. Formidable. C'est bien de pouvoir réaliser que la loi, lorsque Dieu inscrit la loi de l'esprit dans mon cœur, je peux donc, avec cette loi de Dieu dans mon cœur, écrite sur mon cœur, la table de mon cœur, je peux obéir à la loi de Dieu sans problème. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? La question est ça. Pourquoi Dieu se bat-il pour faire toutes ces choses pour moi? Parce que Dieu a besoin d'un soldat. L'État paye de l'argent pour former les soldats, pour qu'ils soient dans son armée, pour défendre la cause, défendre le territoire national. Donc Dieu a besoin de nous comme des soldats. Dans la grande armée de Dieu. Je suis un soldat. Et pour cela, Dieu m'a exercé à combattre plusieurs sortes de combats. Combat contre l'ignorance, combat contre la chair, la loi, et je me suis exercé. Et maintenant, Dieu me dit, mon fils, je t'appelle pour être un soldat, un militaire dans mon armée. Veux-tu le faire? Veux-tu combattre? Le combat que je vais te donner à combattre. Et pour comprendre le combat, je ne parle pas de combat contre les démons spécifiques. Non, je ne parle pas de ça. Ça va au-delà de ça. Et ce combat-là, on le trouve dans Éphésiens 6, qu'on va lire. Éphésiens 6, et au verset 10, Éphésiens chapitre 6, Il est écrit dans ce passage, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces deux passages-là sont étroitement liés. Le premier verset montre qu'il y a un combat à mener qui, en réalité, je suis un soldat, mais en réalité, il y a quelqu'un qui a déjà, qui va combattre le combat à ma place. Dieu demande ma collaboration simple. Dieu ne m'envoie pas au front et puis il reste en arrière pour me regarder, comme les états-majors de ce monde le font. Dieu me dit ici, fortifie-toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance. Quelle garantie, quelle assurance. Ouais, le Seigneur ne nous amène pas de stress inutile. Quand je dois marcher dans l'esprit, il me dit, ne marche pas selon la chair. Il m'aide pour cela. Chaque étape de la vie chrétienne, le Seigneur est là le premier pour m'aider. Il veut que je collabore avec lui. Il veut que je sois un co-ouvrier. Mais le bâtisseur, l'architecte, c'est lui-même. L'officier général, c'est lui-même. Il est le capitaine. Comme la Bible dit, il est le capitaine de l'armée. Il veut que je m'associe à lui pour combattre ce bon combat de la foi. Et c'est pourquoi le premier verset concerne le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le deuxième verset de 11 dit, maintenant, ça c'est ma part, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais il n'a pas dit inventer des armes et puis utilisez-les. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc le combat en réalité n'est pas mon combat. Puisque je me fortifie en lui, je m'appuie sur sa force toute puissante et il me donne toutes les armes. Comment puis-je échouer? Il ne me demande pas d'aller combattre. Il dit fortifie-toi dans le Seigneur lui-même. On va l'expliquer tout à l'heure au fur et à mesure. Et par sa force, toute puissance. Quelle garantie, quelle assurance, quel repos. Et maintenant, il m'invite à collaborer avec lui. En faisant quoi? En me revêtant de toutes les armes qu'il a préparées et avec lesquelles je vais me revêtir pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, voyons un exemple comme cela dans l'Ancien Testament, qui n'est pas un exemple parfait pour ce qu'on va voir, mais qui est une typologie, qui est un type de combat que quelqu'un a mené. On va le voir dans 2 Chroniques 20, avant de revenir dans Éphésiens 6. Parce que ce soir, on va être un peu court pour prier pour les malades aussi, prier pour les gens qui ont des problèmes. Dans 2 Chroniques, il s'agit de l'histoire de Josaphat, mais nous allons comprendre quelques éléments que Dieu nous donne pour mieux saisir donc notre message de ce soir. 2 Chroniques, chapitre 20. Et au premier verset. On commence au premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec ceux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et on vint dire en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsamson Tamar qui est en Guédi. La Bible dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout cela. une multitude des armées ennemies se sont liguées toutes ensemble. C'est pourquoi, quand nous allons lire la partie, nous allons voir que nous avons non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Ça représente ces armées-là qui sont ici contre Josaphat. Josaphat est le type du combattant de Dieu, et nous allons voir quel sort de combat Josaphat a pu mener et quelle est la victoire qu'il a pu obtenir. Et le parallèle est avec nous aussi, frères et sœurs. Josaphat était dans sa faiblesse, dans ses limites d'homme. Et sa faiblesse et ses limites d'homme ont créé en lui une frayeur qui est logique, qui est normale. La frayeur naturelle. Mais il est allé au-delà de ses sentiments. Il est allé au-delà de son âme. Parce qu'il savait que s'il voulait combattre le combat par son âme, il risquait d'avoir des problèmes. Son âme était déjà, en quelque sorte, vaincue, puisque la peur paralyse. La peur, c'est la foi négative. La peur est une foi. Mais une foi en qui? Dans les circonstances, dans l'ennemi, dans l'autre. C'est une foi, la frayeur, la peur. C'est une foi négative. Parce qu'elle est détournée de Dieu, placée dans l'ennemi. Et quand on la place dans l'ennemi, elle crée en contrepartie une frayeur, des sentiments négatifs qui vous paralysent dans votre manière de réfléchir, dans votre manière d'agir. Et ça vous amène à simplement à ne pas prendre une décision. Donc, ici, le combat, le soldat, Josaphat est un genre de soldat que Dieu nous révèle ici. Un homme qui est un homme juste. Un homme qui connaît la justice de Dieu selon l'Ancien Testament. Josaphat représente l'homme type de l'Ancien Testament connaissant la justice de Dieu. Nous avons la justification selon Christ aujourd'hui, qui est un don de Dieu et qui enlève de nous la culpabilité, le complexe d'infériorité et nous permet de rester ferme devant les circonstances. Mais regardons Josaphat ici. Il a eu peur et il se disposa à chercher Dieu. Parce qu'il savait que naturellement, par ses forces, par ses propres forces, il ne pouvait pas affronter ses ennemis qui sont devant lui. C'est ce que Ephésiens 6 nous dit. Il dit, par la force puissante du Seigneur, n'essayez pas d'affronter les circonstances par vos propres forces. Ça va vous créer une peur, une timidité qui va vous paralyser. Il se disposa à chercher. Il savait une chose. Tant qu'il ne saura pas ce que Dieu lui dit de faire, le genre de combat qu'il doit faire, il savait que ça n'est fini de lui. Bien-aimés frères et sœurs, le renouvellement de l'intelligence nous aide, lorsque nous sommes devant des circonstances, à ne pas chercher tout de suite des solutions personnelles, mais à chercher à savoir entendre la voix du Seigneur. La voix du Seigneur est très importante pour marcher dans la victoire. C'est pourquoi David n'a jamais perdu un combat. Jamais. Pourquoi? Chaque fois que les ennemis venaient contre David, il consultait qui? Et il savait. David n'a pas dit, j'ai combattu ce combat de cette manière, le deuxième combat, je vais le combattre. Non, chaque combat a sa stratégie, chaque combat a ses tactiques, chaque combat a son environnement. David se dit, Dieu connaît tous les combats plus que moi. Donc, il s'appuyait sur l'Éternel. Et Josaphat était un autre type. Il se disposa à chercher. Et quand il a assemblé Josaphat, ils sont venus invoquer, il a rassemblé Judas, ils sont venus invoquer Dieu pour chercher l'Éternel. Et Josaphat va faire une prière excellente. Et il se plaça devant la maison, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il tourne son regard vers le chef et le consommateur de sa foi. Parce qu'en tournant les regards vers lui, alors l'assurance, il oublie tout son environnement qui est là. Il oublie les bruits des Moabites. Il oublie les cris des Moabites. Il n'entend plus les insultes toute son attention est centrée sur la présence, la réalité de Dieu. Tout combat que nous voulons mener par nos propres forces, sans centrer nos pensées sur Dieu lui-même, est un combat fait d'avance. Car l'ennemi soulèvera. L'ennemi est un stratège. Il a une expérience avant nous. Et il connaît, il sait comment faire tomber l'homme facilement. Quand l'homme se détourne de Dieu et regarde à lui-même. Quand l'homme se détourne de Dieu et regarde à lui-même, l'ennemi est très satisfait. Il sait que cet homme-là ou cette femme-là sera la prochaine victime. Alors, Josaphat a fait cela, il a prié. Et, mais pour ne pas vous retenir longtemps, il rappelle à Dieu ses propres paroles, ses propres promesses. La prière, c'est ça. La prière n'est pas d'aller s'arrêter et commencer à demander des choses à Dieu. Il dit à Dieu, n'est-ce pas toi? La Bible, Josaphat sait que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Josaphat sait que la parole de Dieu ne revient point à lui sans rêver, sans accomplir sa volonté. Josaphat rappelle simplement à Dieu, n'est-ce pas toi? Il met Dieu au pied du mur parce que ce que Dieu a dit. Il se rappelle que Dieu a dit, rappelle-moi ce que nous avons dit ensemble. Il dit, plaide ta cause. Expose-moi ce que je t'ai déjà dit. Non, ne m'expose pas tes problèmes. Expose-moi la parole que je t'ai donnée. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants? N'est-ce pas toi? Et il va rappeler à Dieu. N'est-ce pas toi qui as dit que si nous habitons là, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Et il dit maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir, chez lesquels, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Il dit maintenant au verset 12, ô notre Dieu, n'exercerais-tu pas les jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Trois éléments. Nous sommes sans force. C'est pourquoi Paul dit de nous appuyer sur la force de qui? Du Seigneur. Josaphat dit, nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur qui? Sur toi. Le meilleur moyen pour avoir des victoires, c'est ça, frère. Reconnaître que nous sommes sans force naturellement. L'homme naturel n'a pas de force. Même s'il est rempli du Saint-Esprit, il dépend du Seigneur. Sa force, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. C'est pourquoi on dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. On ne demande pas à l'homme tel que Dieu est, de combattre. Dieu te dit, le combat n'est pas pour toi. La réponse de Dieu va venir à Josaphat. Et la réponse de Dieu est donnée par un prophète. Et je vais sauter pour ne pas vous retenir longtemps. Et ce prophète-là s'appelle Zacharias. Et le verset 15 dit, quand l'Esprit Saint est venu sur Zacharias, il a commencé à prophétiser. Et il dit ceci, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Voilà tout le secret du combat du chrétien, du soldat chrétien. Le soldat chrétien n'est pas envoyé par lui-même, par sa propre force pour combattre. Le soldat chrétien doit être premièrement être sûr de la réalité de Dieu en lui. La force toute puissante de Dieu dans la personne du Saint-Esprit demeure en lui. De façon claire. Les armes que le Saint-Esprit donne sont à sa disposition. Et le combattant chrétien combat en s'appuyant uniquement sur la force toute puissante du Seigneur. Et il sait que le combat n'est pas son combat, c'est le combat de Dieu. Alors, quand il y a cette conviction, quand il y a cette situation devant vous, alors, il y a une assurance qui, c'est pourquoi on dit le combat de la foi. Il y a une assurance qui saisit votre cœur et devant les circonstances négatives, devant les situations qui semblent être des situations de faillite, d'échec, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Mais vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que vous savez parce que vous savez. Amen. Mais vous savez quoi? Je sais ce que je sais. Simplement. Qu'est-ce que cela veut dire? Non? Je sais. Il y a une révélation qui est là. Il y a une assurance qui a saisi mon cœur. Mais tu ne vois pas ces ennemis? Je les vois. Mais je vais au-delà de mes sens. Mes ennemis ne sont pas regardés avec mes cinq sens naturels. Mes ennemis sont regardés par le sens spirituel qui est en moi, la foi. Et quand je les regarde, je ne vois pas leur puissance. Non, frères et sœurs. Je vois le Dieu Tout-Puissant qui est en moi. C'est Dieu qui demeure en moi. C'est Dieu qui vit en moi. C'est Dieu qui est avec moi. C'est Dieu qui m'accompagne partout, frères et sœurs. C'est cette révélation que nous devons avoir devant chaque circonstance négative, devant les problèmes qui s'opposent à nous, lorsque le combat est là. Ce n'est pas de se précipiter pour prier d'abord. La prière est parfois une fuite.
Amen.
Vous priez pourquoi? Vous savez pourquoi vous priez? Un homme qui est déjà désorienté, sa prière va aller où? C'est-à-dire une répétition. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit à Zacharie, Dieu envoie une parole. Il dit, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Pourtant, ils vont combattre, mais ce ne sera pas eux. Qu'est-ce que cela veut dire, vous n'aurez pas à combattre? Est-ce que cela veut dire qu'ils n'auront pas sur le champ de bataille? Non, ils iront sur le champ de bataille. Mais ils ne vont pas utiliser leur propre capacité pour amener au bout les ennemis. C'est ce que Dieu veut dire. Vous serez sur le combat. Vous serez sur le champ de bataille. Mais Dieu lui-même sera sur le champ de bataille avec vous. Vous serez présent sur le champ de bataille. Et vous allez assister à la stratégie, à la guerre de Dieu, comment Dieu fait la guerre. Vous serez étonné de voir quelles sont les stratégies que Dieu utilise pour combattre les adversaires, pour combattre vos ennemis, pour combattre donc ces esprits méchants dans les lieux célestes. Mais si vous n'êtes pas attentif à ça, si vous allez avec votre propre capacité, votre limite, si vous allez avec votre propre raisonnement, vous allez avoir des problèmes. Il y a plusieurs années, des missionnaires américains sont venus au Burkina Faso et c'était des gens très bien. Mais ils ont commencé à dire qu'il y a des choses auxquelles ils ne croient pas. Ils ne croient pas aux esprits méchants, ils ne croient pas à ces choses-là. Il dit, mais pourtant la Bible en parle, non? Il dit, non, ils ne croient pas, ce sont des histoires, c'est des superstitions. Et un d'entre eux a suivi les jeunes gens pour aller en brousse, comme on le dit, dans la forêt. Et ils ont été attaqués par les esprits. Les jeunes ont dit attention à des esprits qui. Ils ont dit non, c'est des histoires, Dieu va passer. Il a marché avec toutes ses forces, il est parti, comme un bon soldat. Et dès qu'il a traversé, ses pieds ont commencé à enfler. On l'a amené à Ouaga, à l'hôpital américain de l'ambassade. Ils ont regardé, rien. Ils ont fait les radios, il n'y a rien. Les pieds gonflaient. Et ils l'ont envoyé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, ils ont fait toutes les radios, les scanners possibles, on ne voit rien. Pourtant, le pied ne désenvole pas, il y a des douleurs partout. C'est une infirmière qui a dit, monsieur le missionnaire, vous êtes missionnaire, vous devez savoir que ce que vous vivez là n'est pas naturel, n'est pas physique. Il dit, non, mais lui, il ne croit pas. Ça dit, ok, vous ne croyez pas, mais les radios ne l'arrivent pas à déterminer. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a aucun comprimé qui peut désenfler ça. Comment vous allez faire? Il dit, je pense que vous serez sage. de trouver un petit groupe qui croit à ces démons-là et qui chasse les démons, ils vont vous délivrer. C'était ainsi qu'après d'atroces douleurs, il est allé dans un petit groupe charismatique. Des jeunes gens ont simplement dit au nom de Jésus-Christ, démon, quitte, le démon est parti. Quand il est revenu au Burkina, il dit, Mamadou, je crois maintenant. Il a fallu qu'on lui donne une belle rappelée avant de croire. Il y a un monde spirituel est réel. N'en faisons pas un focus, mais il est réel. Il est réel, et c'est pourquoi Dieu l'appelle le prince de l'air. Il a empoisonné tout l'espace par toutes sortes de choses. Bref. Mais regardez aussi, le combat que nous voulons mener ici, c'est contre le prince de l'air. Parce que nous devons repousser. Pour envahir le terrain qui a été occupé par l'ennemi, il faut des bons soldats. Et notre rôle est d'amener le royaume de Dieu à se manifester comme Josué. Josué est le type de l'invasion. Josué est le symbole de celui qui a été équipé par Dieu, mais qui avait Canaan qui était pris en otage, et Josué devait aller la plante de ses pieds pas à pas pour prendre possession de tout le pays de Canaan. Et la même chose, Dieu nous dit que le royaume des cieux est venu sur la terre par Jésus-Christ. Et pendant 3 ans, il nous a montré que le royaume des cieux est au milieu de nous. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le remet à nous. Mais il nous dit maintenant, prenez possession de la France. Envoyez la France, soldats de Christ. Amenez le royaume des cieux dans chaque partie de la France. Manifestez le royaume de Dieu, dans chaque partie de la France. Et si vous le faites, vous verrez le royaume de Dieu s'étendre en France. Bien-aimés frères, c'est pourquoi il nous dit ici, Josaphat, Dieu va donner la stratégie à Josaphat. Et cette stratégie-là, Dieu lui dit simplement, il dit, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et ensuite il dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Alors, qu'est-ce que Josaphat dit? Le lendemain, il dit ceci, les Lévites entre les filles des Kéatites et entre les filles des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. Alors Josaphat leur dit au départ, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Amon. J'ai introduit par ça, je vais venir maintenant dans Éphésiens 6. Je vous ai dit que l'histoire de Josaphat est tout juste un type imparfait de soldats chrétiens. Mais nous, regardons maintenant l'avantage que nous avons sur Josaphat. Nous avons déjà dit, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sanctifiés, délivrés par donc, la mort de Christ et la mort de notre vieil homme. Et nous avons appris à savoir qu'est-ce que la chair et l'esprit, comment la loi de Moïse qui manifeste la loi du péché de la mort, par la loi de l'esprit de vie qui est en moi, je peux vaincre, je peux dominer et je peux marcher dans la grâce sans être soumis à la loi. Et nous avons vu que la chair peut faire un combat contre moi, comme Saül, mais Dieu m'emmène dans le désert pour me former, Dieu m'emmène dans le désert pour me parler. Et quand c'est fini, Dieu me dit maintenant, tu es prêt pour combattre le combat. Alors, nous retournons à Éphésiens 6 et nous regardons là-bas rapidement. Éphésiens 6. Ce soir, je ne veux pas vraiment vous détenir, je veux aussi prier pour les différents besoins, si cela est possible avec les hommes de Dieu, les responsables qui sont là. Regardons ce passage, il dit, car, verset 12 maintenant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire contre les hommes. Notre lutte n'est pas contre les hommes. Si les chrétiens avaient compris cela, il y a longtemps, le monde avait été gagné. Nous luttons les uns contre les autres. Nous luttons les uns contre les autres. La Bible nous dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas dans ce domaine-là. Mais, nous avons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu nous donne les ceux contre qui nous devons lutter. Et comme ils sont invisibles, comme ils nous agressent, comme ils nous amènent des situations, ils passent par des hommes pour nous empêcher d'avancer. Dieu dit, il y a des armes adéquates pour fortifier, pour m'équiper en tant que soldat de Christ. Quelles sont ces armes-là? Nous les connaissons, on les a citées, on les a prêchées, on les a priées. Il dit, c'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, nous entendons, Dieu n'a pas dit prenez quelques éléments, il n'a pas dit prenez quelques armes. Dieu nous dit prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. En anglais, c'est au singulier absolu. Mais en français, on a dit toutes les armes. Toutes les armes. Pourquoi faire? De Dieu. Pas n'importe quelle arme. Les armes de Dieu. Pas les armes personnelles. Pas les armes doctrinales. Les armes de Dieu. Alors, je dois connaître ces armes de Dieu. Si je suis un soldat de Christ et je dois me revêtir, je dois lutter, je dois repousser l'ennemi, booster l'ennemi hors du terrain de mon père pour installer le royaume. Alors, il faut que j'agisse comme le Père dit d'agir. Contre toutes les armes de Dieu, premièrement, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, c'est-à-dire qu'il y a des mauvais jours pour chacun d'entre nous. De résister dans les mauvais jours, ce n'est pas fini. Résister, on perd la guerre, mais deuxième élément, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quelles sont ces armes maintenant que le Seigneur m'a données? Quelles sont ces armes? Il me dit toutes les armes, il les prend une à une comme les pièces de l'armure d'un soldat. Et comme Paul a vécu au temps des Romains, Paul va prendre l'exemple type de l'armement, de l'armure du soldat romain qui s'adapte correctement à ce qu'il va nous enseigner ici. Donc, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'est pas né au temps de l'Empire grec. Il y a eu plusieurs, écoutez-moi, il y a eu plusieurs empires. Si vous lisez dans Daniel, il y a eu plusieurs empires. Il y a eu l'Empire de Babylone. Il y a eu l'Empire Médo-Perse. Il y a eu l'Empire grec. Romain. Pourquoi Jésus est né au temps de Rome? Il y a deux éléments clés. Premièrement, dans le monde, personne ne connaissait la croix. La croix a apparu avec César. Et Jésus devait mourir sur la croix. Alors s'il était venu avant, il va mourir sur la croix. La croix, qu'est-ce que c'est? Personne ne savait ce que c'était. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils mourir au temps convenable, au temps de César. Un. Deuxièmement, César était celui qui avait amené la démocratie dans le monde. Parce que les Grecs ont inventé la notion de la démocratie. C'est Rome qui l'a appliquée. Et troisièmement, tout ce que César faisait, Jésus dit, César a son sénat, son sénat, son église. Le mot église n'est pas un mot religieux.
Le mot église est un mot grec.
Oui, c'est normal. On parle de quelque chose que l'autre n'aime pas. C'est pourquoi on y va doucement, parce que cette partie est importante, frère. Écoutez, donc, Jésus dit, je bâtirai mon... Est-ce qu'il a dit, je bâtirai l'église? Il dit mon église. Pourquoi? Parce que César avait son église. Le mot église n'est pas religieux. Le mot église, c'est simplement un sénat de gens, un sénat privé qui est autour d'une personne qui décide, comme César. Et ce n'est pas l'église qui a inventé le mot église. Ça vient des Grecs. Pratiqué par Rome. C'est pourquoi Jésus dit, César a son église, moi j'ai mon église. Mon ecclésia, mon assemblée. C'est pourquoi il dit mon église. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu au temps de César, avant. Il ne pouvait pas venir au temps de Nebuchadnezzar. Il ne pouvait pas venir au temps des autres. Mais au temps de César, il est arrivé. Ça, c'est une parenthèse pour vous montrer que Dieu ne fait rien au hasard. Mais maintenant, les armes du soldat romain, les armes du soldat romain sont là devant vous et Paul les appelle les armes de Dieu. Il fait une analogie entre les armes du soldat romain avec les armes de Dieu. Regardez quelle analogie. Encore là, il a fallu que Rome vienne avec cet armement-là pour que Paul puisse dire, voici les armes de Dieu. Et il y a six pièces principales dans l'armure de Dieu. Et ces six pièces principales-là vont permettre à qui que ce soit, en tant que soldat de Dieu, en tant que soldat, si vous avez la révélation de ces six pièces, ces six armes, et vous savez les utiliser avec la direction du Saint-Esprit, alors Paul vous dit, en ce moment-là, le combat pour vous, la victoire est assurée. Et, première arme, il nous dit simplement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. De quelle vérité il s'agit? Il y a plusieurs sortes de vérités. Quand Jésus, ce n'est pas la vérité philosophique. La vérité, ce n'est pas, on ne parle pas ici du contraire du mensonge. Non, on ne parle pas de ça. La Bible nous montre ici que les différentes pièces de l'armement de Dieu sont en même temps les différentes qualités de Christ lui-même. Revêtez-vous simplement de Christ.
Amen.
Christ est la
vérité.
Premier élément. Ce n'est pas une vérité doctrinale que je prends dans mon église. Non. Ce n'est pas une vérité doctrinale, une vérité que je prends quelque part. Non. Christ est la vérité. Donc, il dit, ayez à vos reins. Pourquoi? Puisqu'il est la vérité, et que par la vérité, la parole de la vérité, il sanctifie, je commence à découvrir que si je veux vaincre l'ennemi, je dois être couvert, avoir à mes reins, Christ lui-même, comme ma vérité. Et là, Satan ne peut rien lorsque Christ lui-même est ma vérité. Pas une vérité doctrinale imposée quelque part. Non. Christ lui-même, sa personne, est la vérité. Sa parole est la vérité. Donc, je dois me nourrir de cette parole de vérité. Je dois dire cette parole de vérité. Je dois penser cette pensée de vérité. Christ, donc, est la vérité. Alors, quand je commence à comprendre cela, parce que les reins, c'est là où on suspend l'épée. C'est là où on suspend le revolver. Les reins d'un homme, c'est la sécurité de cet homme-là. Les reins. Si votre vie ne commence pas par la vérité, c'est difficile. Pourquoi? il dit aux Éphésiens 4, il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Créez l'homme nouveau. Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon la justice et la sainteté que produit quoi? La vérité. C'est la vérité qui produit la justice et la sainteté. Quelle vérité? La vérité, donc, la parole de Dieu. La vérité Christ. Alors c'est pourquoi, si je fais trop de compromis avec la parole de Dieu, l'ennemi n'a pas peur de moi. Quand je fais trop de compromis avec la parole de Dieu dans ma vie personnelle, l'ennemi a toutes les raisons pour m'attaquer parce qu'il rôde. L'ennemi ne se repose jamais. Il rôde cherchant qui il va détruire. On n'a pas dit qu'il peut. Il dit qu'il cherche qui il va détruire. C'est lui qui va refuser d'avoir à ses reins la ceinture de vérité à des problèmes, frères et sœurs. Le soldat mûr, le soldat qui sait, doit porter, doit savoir, doit vérifier si toute sa pensée est la pensée de vérité. Et vous savez, quand vous commencez ce message comme cela, vous sentez que l'atmosphère change. Oui, c'est un combat pour le prédicateur qui prêche. Bah, vous savez que les pensées n'arrivent pas à saisir exactement ce qu'il y a. Bah, être soldat, un soldat, ce n'est pas avec des balles en caoutchouc, il s'en va à la guerre, c'est des balles réelles. Et quand on tire, ça fait mal. Mais vous ne pouvez pas aussi rester des enfants de Dieu, des filles de Dieu, sans être soldat de Christ. Dieu a besoin d'une armée. Et c'est vous et moi qui sommes les membres de cette armée, femmes et hommes. Chacun dans ça, comme l'armée, il y a l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de l'air. Et il y a dans chaque armée, il y a des spécialistes. Donc Dieu a une armée. Ça peut être l'armée d'intercesseurs, ça peut être l'armée de louanges, ça peut être l'armée d'évangélistes, ça peut être l'armée de gens qui s'en vont. Mais d'abord, Dieu me dit, les armes dont j'ai besoin, c'est la vérité. Cette vérité-là que j'ai à mes reins, que je mets à mes reins, c'est de dire la vérité, de vivre la vérité. Parce que Satan est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Alors tout compromis peut faire que l'ennemi ait le droit sur ma vie. Je parle de la parole de Dieu. Écoutez-moi. Je ne parle pas de nos doctrines, frères. Je parle de la parole de Dieu. Si Dieu me dit de faire telle chose dans sa parole, si je fais des compromis, je donne, il dit, ne donnez pas accès à qui? Ne donnez pas accès. Il n'a pas dit, le diable rôde, mais il n'a aucun accès tant que je ne lui donne pas accès dans ma vie. Il n'a aucun pouvoir. Le diable ne peut pas me détruire tant que je ne lui permettrai pas de le faire. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Dieu est là pour garantir ça. La seule chose que Dieu me dit, il prend mon fils, ma fille, prend toutes les armes. Et tu demandes, c'est un ordre, prenez. Dans l'armée, ce sont des ordres, on marche par ordre. On ne demande pas à un soldat s'il veut marcher aujourd'hui. On lui dit, marche, garde-vous. Repos. Présentez. Ah. On ne demande pas son avis. On ne demande pas son avis s'il a envie de marcher aujourd'hui. On vous réveille avec vos chaussures aux pieds d'y aller marcher. Un kilomètre à pied. S'abuse, un kilomètre à pied, s'abuse des souliers. Le caporal dit, marche. Tu marches. Il dit maintenant, pompe. Tu pompes. C'est ça, frère. La ceinture, la vérité. C'est l'arme par excellence du soldat chrétien. Il ne peut rien contre la vérité. Satan n'aime pas la vérité. Il sait que tant que vous vivez dans la vérité, c'est-à-dire que vous pouvez faillir, mais tant que vous avez l'esprit de vérité sur vous, il ne peut rien faire. Je n'ai pas dit que vous êtes imparfait. Non, vous êtes imparfait dans votre nature humaine. Mais la vérité est une arme très puissante qui vous sécurise, qui empêche l'ennemi d'entrer dans votre âme et de créer des problèmes à votre âme. C'est pourquoi la vérité, transparence entre un homme et sa femme, c'est très important. Un homme et sa femme doivent être transparents, la vérité. Si tu commences à faire comme cela, l'ennemi va rentrer. Tu donnes accès à l'ennemi dans ton couple. Et quand tu donnes l'accès à l'ennemi dans ton couple, c'est fini. Il va détruire le reste tout doucement. La transparence familiale entre un couple est très importante. Frère, dis la vérité. Savoir reconnaître que j'ai tort ici. La deuxième arme que Paul nous dit, il dit, répétez la cuirasse de la justice. Mais la cuirasse de la justice, ça protège quoi? La vérité, c'est les reins. Et les reins, dans le corps humain, physiquement, l'important des reins, vous le savez, non? Quand les reins ne fonctionnent plus, vous avez des problèmes. Donc, vous voyez, la vérité, c'est au niveau des reins. La cuirasse de justice, c'est les poumons et le cœur. Alors, c'est important. Si je n'ai pas appris à dire la vérité, mon cœur sera atteint. Mon cœur sera troublé. C'est pourquoi le fondement, c'est la vérité. La ceinture de vérité permet à la justice de Dieu de venir se mettre en place parce que la cuirasse sera attachée à la vérité ici. Mais s'il n'y a pas de vérité, la cuirasse va simplement aller. Si vous prenez l'armement du Romain, Paul se base sur l'armement du Romain. Il dit, la justification me donne l'assurance. Car il a été fait pécher pour que nous soyons justifiés de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21. Et la justice de Dieu enlève de moi la culpabilité et le complexe d'infériorité. Ça me donne une certitude de savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Chose que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse de la chair. C'est pourquoi Dieu me dit, si je suis justifié, étant donc justifié, nous avons la paix avec Dieu. La justification, la justice de Dieu est l'arme qui permet à tout soldat chrétien, de ne jamais avoir le complexe, ni la culpabilité, ni la timidité devant Satan. Jamais. Jamais. Parce qu'il n'y a rien. Il n'a rien à vous accuser. Il est l'accusateur des frères. Mais il n'a pas d'argument puisque vous vivez dans la vérité. Vivant dans la vérité, il ne peut pas vous accuser, il ne peut pas vous condamner. On dit que la justice et la sainteté sont produits par la vérité. Donc la justice est un produit de la vérité. Alors, si je vais libérer mes frères, je suis dans la vérité, je suis couvert de la cuirasse de justice, j'avance avec certitude pour parler aux chrétiens. J'avance certitude pour libérer les gens. J'avance avec certitude pour conduire le peuple de Dieu dans le témoignage. Je m'en vais dans les rues. Je fais l'invasion dans les rues, dans les marchés. Je m'en vais là-bas pour prêcher. Quand nous comprenons cela, on n'est plus troublé par les attaques de l'ennemi. Il y a une année, nous devons faire une campagne d'évangélisation à Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays. Une campagne d'évangélisation. Nous avons tout préparé, nous sommes allés. Nous avons cherché la face de Dieu. Dieu nous a dit d'aller. C'est une des grandes campagnes d'évangélisation que nous faisions, puisque nous avons appelé ça l'invasion. L'invasion, c'est d'aller de ville en ville pour faire des croisades d'évangélisation. Et nous envoyons d'abord des espions qui espionnent la ville spirituellement, qui prennent des renseignements, qui nous donnent ça. Et ensuite, on fait l'invasion comme Josué a fait. Josué a envoyé deux espions avant que lui, il fasse l'invasion. Et quand nous sommes arrivés dans cette ville-là, et nous devons commencer la campagne le mercredi soir. Le mercredi vers 12h, quelqu'un vient nous annoncer que toutes les forces occultes de la ville, les gris-gris, tous les féticheurs, parce que nous avons loué des radios FM pour faire la publicité. Ils ont entendu que nous sommes venus dans la ville et on veut envahir la ville. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un sacrifice rituel. Et vous savez, en Afrique, ce n'est pas de l'amusement. Un sacrifice rituel pour dire que soit c'est moi qui meurs, ou c'est une personne de mon équipe qui doit mourir pour que la campagne cesse. Donc quelqu'un a su cela, il est venu nous dire, ah, ils ont attaqué et ils ont enterré un mouton vivant. Et quand c'est ça, ça veut dire que le combat sera ardu. Mais frère, quand on est venu me dire cela, j'étais avec les soeurs de l'intercession et j'ai dit, ils ont dit que ce soir-là, vous savez ça, ils vont provoquer de la pluie. Ça, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, provoquer la pluie sans les nuages. Parce que pour vous, c'est la météo qui fait la pluie.
Des fois.
Tant que la météo ne dit pas demain va pleuvoir, vous ne croyez pas ça. Et les forces occultes sont capables de provoquer la pluie en pleine saison sèche. Si vous ne savez pas ça, vaut mieux le savoir. Si vous voulez aller pêcher en Afrique ou bien en Inde, que vous le sachiez très bien. Alors, j'ai pris ma Bible dans le livre de Josué et j'ai dit à nos intercesseurs, Madame Chevalier, Pauline, ils ont dit, venez avec moi. On est monté au deuxième étage. J'ai dit, regardez l'est. Les nuages viennent tout le temps de l'est pour pleuvoir aux routes. Les nuages viennent de là. J'ai ouvert où Josué a dit, Gabaon, soleil, je t'ordonne de t'arrêter où? Et il y a la lune sur Ascalon, ne bouge plus. J'ai dit, vous allez voir quelque chose aujourd'hui que vous n'avez jamais vu. Nous sommes des soldats de Christ, nous sommes venus faire une guerre ici. Nous ne sommes pas venus à notre propre nom, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Satan veut nous attaquer avec les principautés, les dominations. Mais attendez, j'ai ouvert la Bible, j'ai lu simplement, j'ai dit, pluie, provoquée ou non provoquée, je te commande au nom de Christ Jésus. Tu vas pleuvoir, j'ai dit les quartiers. Écoutez-moi, c'est une vidéo. J'ai dit, tu vas pleuvoir dans tel quartier, tel quartier, tel quartier. Quand tu vas arriver au stade où nous faisons, je t'interdis qu'une seule goutte ne tombe dans le stade. Amen. Au nom de Jésus.
Amen.
Ceux qui étaient avec moi, c'est la première fois que j'ai fait ça. Ils m'ont regardé. Et les équipes sont parties. Quand le chauffeur est venu me chercher vers 18h30, je voyais le chauffeur qui souriait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, c'est étonnant. Toute la ville est remplie d'eau partout, sauf le stade, il n'y a même pas une goutte de pluie. Écoutez, ce n'est pas fini, c'était le combat. Ce soir-là, nous avons prêché. Dieu a manifesté sa gloire. Mais le second soir, le deuxième soir, ils ont continué à attaquer. Et là, ils nous ont dit clairement, le dernier soir, ils ont sorti leur fétiche. Une femme qui sort toute nue. Et si elle sort, elle ne rentre pas sans qu'il y ait la mort. Ça, c'est les forces occultes. Alors, nous avons dit à la radio, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. On verra qui est le second verbe. Ou Dieu, ou Satan. Mais Satan, déjà, c'est qu'il doit se mettre tout le temps à l'infinitif. Il est le deuxième verbe. Ce soir-là, j'ai dit à mon adjoint, Kabore Gilbert, qui est avec moi, Dieu me dit, va, dis-lui d'aller prêcher, et toi, tu vas venir prier pour les malades. Il dit, Gilbert, tu vas, tu prêches. N'aie pas peur, ils vont nous attaquer ce soir-là. Ce soir, ils vont mettre tout pour nous attaquer. Va prêcher, et je vais arriver pour prier pour les malades. Écoutez, dès qu'il a fini de prêcher, moi j'arrive, je sors de ma voiture, Dès que je monte sur l'estrade, un tourbillon en pleine nuit arrête toutes les ampoules. Le courant est coupé. Un. Deuxièmement, un vent est introduit dans le stade. Un vent qui tourne la nuit. Et les nuages sont venus sur le côté. La police qui était là, parce qu'on avait demandé à la police de venir veiller la foule. Et le policier qui dit à son compagnon, mais aujourd'hui, mais leur affaire sera fichue. Parce que tu vois là, l'autre policier dit, mais l'autre policier qui est un musulman dit, mais toi, tu n'as rien vu. Depuis le premier soir, tu n'as pas vu. Chaque fois qu'il y a quelque chose, quand l'homme là arrive, ça change. Il dit, attends, tu vas voir. Quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis avancé, le vent a pris la chaise. Ma chaise était là, je voulais m'asseoir. Le vent a pris la chaise, hein. Écoutez, la chaise comme cela, littéralement, elle est projetée dans la foule. Il y avait un combat qui était là. Mes frères, je connais mon identité.
Amen.
Je sais qui je suis. Je suis un soldat. Nous sommes en guerre. Je n'ai pas besoin d'avoir peur du soldat et l'ennemi. Je suis mon capitaine. Il y a un capitaine de l'armée. Il s'appelle Jésus-Christ. Il m'a dit d'aller faire une campagne. Ce n'est pas à moi de combattre. Moi, je dois porter la ceinture de vérité. J'ai examiné ma vie. Est-ce que je suis dans la vérité? Simplement, j'ai examiné ma vie. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que j'ai la ceinture de vérité à mes reins? Est-ce que j'ai la cuillère de justice? Est-ce que je suis culpabilisé? Est-ce que je suis condamné? Est-ce que je crois ça? Non. Est-ce que j'ai le casque du salut sur ma tête? Est-ce que j'ai les chaussures de la paix? Est-ce que j'ai l'épée du Saint-Esprit? Quand j'ai vérifié que j'ai toutes ces armes-là, je marche avec certitude pour aller au stade. Mais il faudrait d'abord que je regarde bien si je suis un soldat bien équipé. Alors, j'ai pointé le doigt, j'ai dit nuage. Vous m'entendez? Je vous parle, vous, nuage. Je vous commande de partir. Je commande à la lumière de venir. Écoutez, ce soir-là, instantanément, les nuages qui commençaient à déverser là sont arrêtés. Les étoiles, la lune est sortie. Tout le stade, ce soir-là, les parties ont commencé à marcher. Six jours après, la dame qui est sortie et qui devait revenir avec la mort de quelqu'un d'entre nous, son fils unique est décédé et mort. Toute la ville a témoigné de la puissance de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, que vous le soyez d'accord ou pas, Dieu dit que nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui amènent les hommes à se lever contre vous, qui amènent des circonstances. Mais que vous le vouliez, que vous croyez, vous ne croyez pas à ça, c'est comme cela. On ne peut pas s'asseoir à une table de traité de paix avec Satan. Satan ne signe pas de traité de paix. Il ne fait pas des prisonniers aussi. Donc soyez convaincus de ça. Soyez des soldats et marchez simplement dans la marche du Seigneur. Appuyez-vous sur sa forte puissance, revêtez-vous toutes les armes. C'est la seule sécurité. C'est la seule sécurité. Vous ne pouvez pas dire à Satan, ni à ses esprits, vous ne pouvez pas dire à ces choses-là, le monde est attaqué et Satan n'a pas encore libéré ses démons les plus méchants. Les esprits méchants ne sont pas encore libérés. Vous entendez? Je vous dis la vérité. Toutes ces choses, il y a des choses que quelqu'un me disait, mais parce qu'il faut oser parler. Il n'a pas encore libéré les esprits méchants qui vont créer des problèmes. Ce qu'on a vu dans les crises là, ça ce n'est rien. Je suis économie de formation, je suis économie financière. Je suis un docteur en économie. Les crises actuellement, personne ne sait comment les dénouer. Il n'y a personne dans ce monde-là qui peut les dénouer. Ce n'est pas la crise de 29 où Tona Keynes a eu toute la théorie et on a mis en place le Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est plus que ça maintenant. Il y a un combat réel. Mais beaucoup de chrétiens sont déjà, ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur bien. Parce qu'ils ne sont pas revêtus des armes de Dieu. Le combat est un combat à plusieurs dimensions. Et c'est pourquoi nous devons avoir la vérité. Frère, le compromis de la vérité affaiblit notre armure. La justice de Dieu, que nous devons revêtir, va donner l'assurance à nos cœurs. Nos cœurs ne seront pas condamnés. Nos poumons, les deux organes principaux, le cœur et les poumons, sont gardés dans la quiétude, dans le repos. Et enfin,
Et troisième chose, troisième arme, il est dit ici, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous devez mettre à vos pieds les chaussures. Et quand vous mettez ces chaussures-là, j'ai noté quelques éléments. Ces chaussures, c'est votre marche quotidienne. Dieu dit de faire attention que votre marche chrétienne, pas les chaussures représentent les pieds. Les pieds, c'est la marche. Chacun des organes représentés ici a une relation avec votre vie spirituelle. Les reins, les poumons et le cœur, la poitrine, et ensuite les chaussures. Dieu demande que notre marche soit une marche de paix. Que nous apportions non seulement la paix aux nations, mais aussi que nous puissions marcher avec certitude sur les serpents et les scorpions. Sur les serpents et les scorpions. Nous devons marcher dans la vérité, nous devons marcher avec l'évangile de paix, mais en même temps, quand nous marchons pour annoncer l'évangile de paix, nous devons marcher sur les serpents et les scorpions qui ne se laisseront pas piétiner comme ils veulent. Et c'est pourquoi, dans une même maison, une femme peut être convertie, mais si elle ne revêt pas les armes, son mari restera inconverti toute sa vie. Il faut découvrir ces armes-là et les appliquer et les utiliser. Ce mari inconverti, toute son intelligence est dans l'obscurité. Comment pouvez-vous gagner ce mari-là si vous ne savez pas utiliser les armes de Dieu pour délier votre mari ou vos enfants? Il y a un combat dans la famille, il y a un combat dans les affaires, il y a un combat à tous les niveaux. Mais s'il n'y a pas ces armes-là, comment pouvons-nous les libérer? Comment nous pouvons-nous affranchir les enfants? Qu'elle, à un moment donné, tourne le dos contre Dieu. Ce n'est pas en pleurant sur nos enfants qu'ils seront libérés. Il dit, prenez toutes les armes. Donc, les chaussures. Revêtez vos pieds. Vous ne pouvez pas marcher les pieds nus. Car les serpents, les scorpions sont là qui guident vos pieds. Qui guettent vos pieds. Veulent vous mordre. Vous voulez aller apporter l'évangile de paix? Mettez les chaussures. C'est une des armes de Dieu. Et autre arme, il est dit ici, après, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Le bouclier de la foi, prenez cela. Le bouclier de la foi va, quand l'ennemi envoie contre vous des paroles comme Goliath et David. Goliath a dit à David, je vais te détruire, je vais livrer ta chair. L'ennemi a des paroles très, 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 très graves pour vous influencer. L'ennemi vous assomme avec les paroles des gens autour de vous. Vous arrivez au service le matin, une parole sort de la bouche d'un collègue ou bien d'un patron pour vous détruire. Ça, c'est l'ennemi. Il envoie des traits enflammés. Des traits enflammés. Et la Bible dit, la foi, la parole de confession, la parole de foi que vous répondez, David n'a pas écouté Goliath. David a commencé à remplir sa bouche de paroles de foi. Il a exercé sa foi. Il a non seulement enrayé les traits enflammés du diable, et on va le voir tout à l'heure là, il va utiliser la parole de Dieu dans sa bouche. Quand on dit l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Mais cette épée n'est pas notre main, elle est notre bouche. Quand vous voyez Jésus-Christ dans l'Apocalypse, il a une épée à double tranchant où?
Dans la bouche.
Dans la bouche, non pas dans la main. Tout le monde croit que l'épée est dans la main. Non, l'épée de Dieu n'est pas dans la main, c'est dans la bouche. C'est la bouche qui est l'épée de Dieu. C'est la bouche qui est le canon pour frapper Satan, pour envoyer les balles. C'est la bouche de l'homme. Car c'est la bouche qui a perdu l'homme dans le jardin d'Éden.
Amen.
C'est la bouche qui a perdu. Et c'est pourquoi Dieu dit, la mort et la vie sont où? Dans la bouche. si nous ne prenons pas ces armes-là, si nous continuons à nous dire, pauvres petits pécheurs, plus vous dites ça, ce n'est pas d'humilité, c'est de l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Un pauvre petit pécheur, il est déjà un esclave de Satan. Tous les pécheurs, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Alors, écoutez-moi maintenant. Si tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et vous êtes devenus chrétiens, et vous continuez à vous dire, pauvre petit pécheur, ça veut dire que vous êtes encore privés de la gloire de Dieu. Et cela est vrai.
Non.
Cela est vrai.
Non.
Pécheur, c'est une nature. Mais le chrétien justifié peut pécher sans être pécheur. Ne confondez pas les deux choses. C'est le pécheur qui pêche. On n'a pas dit que celui qui pêche est pécheur. C'est différent. Le manquer donne des manques. On n'a pas dit que vous êtes pécheur. Vous êtes maintenant justifié. Il dit montrez les fruits de la justice. C'est pourquoi il dit si le juste tombe, il fait quoi? Il se relève. Il ne reste pas, il n'est pas pécheur. Non, frère. Ne restez pas dans cette ignorance qui va faire de vous un esclave de Satan dans votre pensée en permanence et qui fera que vos prières ne seront jamais exaucées. L'homme qui est né aveugle, il dit à ceux qui l'ont interrogé, mais Dieu ne répond pas aux pécheurs. Si vous êtes un pécheur, vous n'avez pas de vie divine en vous. Le pécheur n'a pas de vie divine. C'est un langage traditionnel qu'il faut balayer. La Bible dit que la tradition annule la parole de Dieu. Remplissez votre bouche de la parole. Dites la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. Dites ce que Dieu a dit de vous. Dites ce que Dieu a dit de vous. C'est ça le son là. Il confesse, il parle. Le bouclier de la foi. Et ensuite le casque du salut. Le casque du salut. Votre tête, vos pensées doivent être protégées. Le casque du salut. C'est pourquoi on demande aux enfants de porter les casques aujourd'hui. S'ils tombent, la première partie qui est dangereuse, c'est la tête. Traumatisme crânien. Satan, dans la guerre, Satan provoque des traumatismes crâniens. C'est pourquoi on dit porter le casque du salut. Protégez vos pensées. Protégez vos pensées contre les pensées de l'ennemi. Que le renouvellement de l'intelligence par les pensées, la parole de Dieu, la parole esprit et vie, va renouveler votre intelligence et votre intelligence va s'allier sur la parole de Dieu. Dieu et vous, vous allez marcher là. Mettez les pensées de Dieu, frère. Le casque du salut. Revêtez ça. Mettez le casque du salut. Et quand vous avez mis cela, il dit ensuite. Frère, il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, comme je l'ai dit, dans votre bouche. En ce moment-là, il vous dit maintenant, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin, etc. Alors, quand vous avez revêtu ces armes-là, quand vous avez revêtu ces armes, alors frère, c'est pourquoi ce soir j'ai voulu aller un peu plus lentement. Tout n'est pas là, parce que tout un séminaire qu'on doit développer ici, tout chacun de ces éléments, la vérité est un séminaire entier. La justice est un séminaire entier, vous le savez. Le salut est un séminaire entier. On ne peut pas le prêcher en une heure. C'est tout un séminaire entier ici qu'il fallait essayer. Ouais. La Bible, c'est simplement la clé USB de Dieu. Hey, mais vous dites, vous voulez rire. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 20? Que si, vers 21, que tout ce que Jésus a fait, si on voulait l'écrire, le monde entier ne pourra pas quoi? Alors, donc, si la Bible de Jésus avait été écrite en entier, est-ce que tu auras une Bible?
Non.
La Bible sera plus grande que toi. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a comprimé ça en clé USB. C'est une clé USB comme ça. Mais quand tu loues devant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, maintenant, Pas cela. C'est pourquoi ayez votre clé USB avec vous tout le temps. Partout où vous arrivez, vous mettez et vous cliquez, ça sort. Cette clé-là, vous devez la garder tout le temps. Et ça va vous aider à aller de l'avant. Frère, je vais m'arrêter là parce que je dois prier. Je m'excuse, je vais prier. On va remercier Dieu et on va prier. Demain matin, ce sera notre message, mais on va prier ce soir. Alors, Seigneur, nous te remercions ce soir. Nous savons que l'ennemi ne veut pas que nous parlions de chrétiens soldats. Il veut qu'on soit des chrétiens et non pas des soldats. Il ne veut pas que nous apprenions à comprendre que nous avons des armes. Mais ce soir-là, Père, malgré son atmosphère qu'il a essayé de créer, tu nous as parlé et chacun d'entre nous va aller pour faire cela. Alors la Bible dit ce soir, pour terminer, que Christ a porté nos péchés sur la croix du calvaire. Amen. Mais il a aussi porté nos maladies. Mais voici des choses que les gens acceptent. Mais ils ne voient pas le résultat. Pourtant, il connaît tous ces versets. Dieu n'a pas de connaître les versets. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est toute vérité connue en expérience par révélation qui vous affranchit. La vérité sur la guérison divine. Pas les versets simplement. La révélation sur la guérison divine va faire partie la maladie de mon corps. J'avais des hémorroïdes sanguillonnantes. Quand je m'asseyais, le sang sortait. J'ai demandé à deux jeunes chrétiens, un monsieur et sa femme, ils disent, venez m'imposer les mains. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades tomberont raides morts. C'est ça qu'il est dit. Hein? Et les malades seront
guéris.
Alors je me suis assis, j'ai dit, venez, ils sont venus. Mais ils tremblaient comme ça. Et je dis, mais non, ne regardez pas le pasteur. Regardez ce que la Bible dit. Ils ont imposé les mains sur moi. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ maintenant, hémorroïdes. Nous te commandons, nous t'ordonnons. Christ a apporté ces hémorroïdes-là. Il dit, pasteur, vous êtes guéri. Je dis, amen. Je dis, amen. La lutte va commencer entre la parole, les faits, la foi et les sentiments. Quand je me suis levé, j'ai dit, je suis guéri. Par ses maîtres, je suis guéri. Quand je m'en vais aux toilettes, Satan me dit, regarde derrière toi. Il dit, hey, tu es insensé. J'ai dit à Satan, j'ai vu du sang. Mais j'ai dit, je suis guéri par ses maîtres. Il dit, non mais écoute, le sang sort, donc tu n'es pas guéri. Moi, je suis guéri. Ce n'est pas un mantra que j'ai récité. C'est une conviction profonde que je suis en train d'exprimer à Satan. La lutte a duré un mois. Et je suis allé dans un autre pays pour faire un séminaire. Quand je m'asseyais pour me lever, j'avais mal. Tout mon dos me fait mal. Ceux qui ont eu des hémorroïdes sanguinantes, ils savent. On s'assoit sur une fesse, sur l'autre. Ça marche pas. Et ce dimanche, je suis allé dans ma chambre de l'hôtel et j'ai dit, Satan, écoute-moi, il faut que tu saches une fois pour toutes que je ne suis pas un plaisantin. Moi, je dis que je suis guéri. Pas ces meurtres, je suis guéri. Alors, j'ai quitté, j'ai pris l'avion, je suis arrivé chez moi. 3 jours après, je m'en vais aux toilettes, je cherche, je ne trouve pas les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont partis. Les hémorroïdes sont partis. La parole de Dieu n'a rien à voir avec les sentiments. J'ai prié pour les femmes stériles de l'église. Souvent, on prend toutes les femmes stériles de l'église. Sinon, pas d'enfants. Et on prie.
Ah non, je prends des femmes hystériques. Textuellement, les stériles doivent accepter. Alors, je leur ai dit ça, il dit, mais écoutez-moi, Marie, c'est un ange qui lui a dit. Il dit, tu seras enceinte. Elle a dit, comment? Elle voulait savoir le comment. Mais il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la semence divine qui est en toi, mais elle va sortir. Sera appelé le fils du Très-Haut. C'est une vierge, une jeune fille qui ne connaît pas d'homme, a pu faire cela. Vous vous êtes déjà marié. Mais le Saint-Esprit, c'est plus facile pour lui. Ne me dites pas que vos trompes sont bouchées. Ne me dites pas que vos utérus ne fonctionnent pas, vos ovaires. Mais alors, je les ai fait venir et j'ai prié pour elles. J'ai dit simplement, allez-y. Il dit, allez-y, bénissez le Seigneur. Il y a une dont le mari était musulman. Elle est passée à la maison ce soir, elle a dit, le pasteur Mamadou a dit que je suis enceinte. Ça c'est grave, hein? Le mari va me dire d'approcher les preuves. Mais comme elle a, ça fait 8 ans, elle attendait un enfant, et son mari était musulman, ses parents lui ont dit, mais tu as droit à 3-4 femmes, prends-toi 4 femmes. Si celle-ci ne donne pas un enfant, la religion nous permet d'avoir 3-4 femmes. Pourquoi t'embarrasser avec cette femme-là? Prends-les une deuxième. Le mari dit, non, j'aime ma femme. Et puis elle est chrétienne, moi je respecte sa religion, vraiment c'est une femme sérieuse, elle est bien. Et dès qu'elle a dit ça à son mari qu'elle est enceinte, le mari a couru pour aller voir ses parents. Il dit, ma femme est enceinte. On lui a dit, mais qui a dit de passer mon mari? Écoutez, Dieu vous dit une chose. Si je n'étais pas sûr, ou bien je suis fou, et j'ai une réputation à défendre, oui ou non, vous croyez qu'un homme va s'asseoir et dire à une femme qu'elle est enceinte? J'ai une réputation à défendre. Je vais passer pour un fou. Et tout le monde, les journaux vont rire de moi. J'avais la conviction ce jour-là que Dieu m'a dit de dire cela. J'ai dit. Un mois passé, un mois et demi, je reçois un matin dans mon bureau une lettre. Et j'ouvre la lettre pour lire. Et c'est une de ces dames-là qui m'écrit. Cette fille en particulier. Elle me dit, pasteur, j'ai dit à mon mari, je suis enceinte. Mon mari a dit à ses parents, je suis enceinte. Je viens de me réveiller aujourd'hui et j'ai vu mes règles. Vous entendez? J'ai vu mes règles. Voilà les termes qu'elle a utilisés. J'ai vu mes règles. Alors, j'ai pris la lettre, elle a laissé son numéro de téléphone. J'ai pris son numéro de téléphone, j'ai téléphoné. Il dit, ma soeur, ah oui, pasteur, oui. Elle commençait à pleurer. Il dit, calme-toi. Dieu m'a dit de vous dire que vous êtes enceinte, vous êtes enceinte. Il dit, oui, mais j'ai vu mes règles. J'ai dit, même si tu vois tes combats et tes doutes de se mettre, ça ne fait pas mon problème. Je lui ai dit ça. Il dit, ma fille, écoute-moi. Quand tu as vu tes règles, il faut voir tes équerres. Les équerres n'empêcheront pas la parole de Dieu de s'accomplir. Ni les combats, ni les doubles semaines. J'ai dit au revoir. Neuf mois après, elle est venue à l'enfant. Je lui ai dit maintenant, tu vas nous expliquer comment tes règles ont fonctionné. Tu m'as dit que tu avais vu tes règles, non? Comment, ayant vu tes règles, tu as eu l'enfant? Elle dit, mais pasteur, quand je t'ai téléphoné, j'étais vraiment découragé. Mais quand tu as dit, et je lui ai ajouté, il dit, mais quand un homme coule du nez, est-ce qu'il est en train d'avorter? Le fait que le sang sort, est-ce que quand moi j'ai un saignement de nez, est-ce que je suis en train d'avorter? Est-ce que j'avance? Soit logique, la parole de Dieu qui me dit ça, j'ai dit. Elle dit, mais quand tu m'as dit ça, j'ai dit, mais c'est vrai. Mais le fait que je coule du sang, je ne veux pas dire que je suis en train d'avorter. Alors je dis au sang, mais tu t'arrêtes, hein? Là, enfin, tu es devenu violent. Et elle est venue présenter l'enfant. Donc, ce que je vous dis là, vous savez, et on a vu plusieurs cas comme cela. Je vous parle sérieusement. Plusieurs cas. Non pas que ce n'est pas une foi extrémiste. Non pas des mantras. Ce que je vous dis. Jésus dit, j'imposerai les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, les malades seront guéris. Maintenant, comment Dieu agit, je ne peux pas vous expliquer. Frère, je ne peux pas vous dire que Dieu fera comme ceci, Dieu fera comme cela. J'ai prié pour une femme aveugle qui est venue devant. Quand j'ai prié pour elle, sa fille l'a prise par les mains et l'a amenée. Ma soeur, c'est pas. Écoute, moi j'ai imposé les mains. On l'a envoyée en France. Ils ont dit que c'est terminé. Toutes les nerfs sont coupés. Il est venu à Abidjan. C'était à Abidjan. Au CHU. Ils ont dit que s'il peut trouver quelqu'un qui est mort avec des yeux, il peut changer. Et vu qu'il y a le sida, beaucoup de sida, les parents ont eu peur. Ils ont amené la femme. Mais ce soir, elle est venue à la réunion, elle était là devant moi. J'ai imposé les mains, rien. Tout était mort dans ses yeux. Elle ne voyait rien. J'ai proclamé, j'ai dit, mais à sa fille, amène-la. Et j'ai dit aux gens, certains sont guéris immédiatement, d'autres, demain matin, ils vont voir sont guéris. D'autres, c'est quand ils vont voir le médecin, que le médecin va prouver les maladies intérieures, telles que le diabète, autre chose, les maladies. Le médecin va vous prouver que vous êtes guéri. C'est pas moi qui guéris, mais je proclame la guérison. Le lendemain matin, à 5 heures, la fille a entendu frapper à sa porte un coup. Elle a eu peur. Elle croit que sa maman a eu une crise. Quand elle ouvre la porte, elle et son mari, elle trouve sa maman, elle dit, je vois. Le soir, elle est venue à la campagne, dit devant tout le monde, toute la ville était, la femme voyait clairement. Nous devons obéir simplement à Dieu. Obéissons à Dieu. Mais j'ai une renommée à défendre. Si je veux défendre ma renommée en disant si je prie pour les malades, ils ne sont pas guéris, alors Dieu me dira, si c'est ça, laisse tomber, ne prie pas pour les malades. Si j'ai une renommée à défendre, pour dire, ah oui, si je prie, au cas où les gens ne sont pas guéris, qu'est-ce que je vais dire? Dieu me dira, bon, ok, mets-toi de côté, je chercherai quelqu'un d'autre pour faire ce que je dois faire. Chacun d'entre vous, regardez vos mains. Vos mains sont les moyens de guérison de Dieu.
Amen.
Chacun, oui, vous, vos mains. Vos mains sont sur les mains. Jésus dit, ils imposeront les. Est-ce qu'il a dit qu'ils imposeront la tête? Ils imposeront. Vous avez deux mains, non? Vous avez deux mains. Et alors, il dit, ils imposeront les mains. Quelles mains? Les mains de qui? Oui. Mais si vous êtes malade, si vous imposez les mains sur vous-même, c'est les mains de qui? C'est pas l'imposition des mains? Si vous imposez vous-même les mains sur vous-même, c'est ce que je fais. Quand j'ai des maux de ventre, je dis, j'impose mes mains, je dis aux maux de ventre. Maintenant, maman doit imposer les mains sur ce corps malade. Je commande. Et ça s'en va.
Amen.
Tu n'as pas besoin d'attendre les mains de quelqu'un d'autre. Au moins, tu es sur tes propres mains, là. Pas les mains des autres, on ne sait pas d'où ça vient. Au moins, sois sur tes propres mains. Ça, c'est bon, non? Ouais frère, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que souvent quand on dit ces choses-là, c'est difficile. Parce que certains croient que c'est de l'amusement. Vous imaginez, vu mon âge quand même, vu toutes les études que j'ai faites, vu ma réputation, je ne m'amuserai pas à venir manipuler quelqu'un. J'ai mon orgueil à défendre. J'ai ma réputation à défendre. Si je dis que Jésus guérit, c'est qu'il guérit.
Amen.
Si je dis Jésus délivre, c'est qu'il délivre. Ça fait 35 ans que je suis là-dedans. 35 ans, j'ai vu toutes sortes de guérisons. Mais j'ai vu aussi des situations qui n'ont pas marché. Là n'est pas mon problème. Frère, vous me regardez là. Tous les chirurgiens qui opèrent les gens, tout le monde est guéri. Est-ce que le chirurgien a réussi à 100%? Mais pourtant, les gens continuent à aller chez lui, non? Alors, pourquoi vous continuez à aller chez les chirurgiens, malgré le fait que sur 10 malades, il y a 3 ou 4 qui sont morts? Pourquoi vous continuez à aller? Vous continuez à aller parce que c'est un chirurgien. Alors, si Dieu vous dit qu'ils imposeront les mains aux malades, si ça n'a pas marché avec celui qui est avant vous, vous vous verrez simplement. Vous êtes logique avec les chirurgiens, vous n'êtes pas logique avec les hommes de Dieu. Soyez logique avec eux. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Moi, je m'en vais. On impose les mains, on ne m'a pas dit qu'on va me frapper. On n'a pas dit qu'on va secouer ma tête. On dit, ils imposeront les mains. Alors, les malades vont passer ce soir-là, on va imposer les mains. Je vais demander qu'il y ait un tunnel de l'onction ici. Les hommes de Dieu vont se mettre là. Un tunnel d'onction, on va poser les mains et les malades vont passer pour recevoir votre guérison. Arrêtez l'incrédulité. Ne croyez pas des messages théoriques. Il faut commencer à croire à la réalité. Je vais demander à ce que 2 ou 3 personnes viennent ici, les responsables là, ils vont s'arrêter là. Et puis, ceux qui sont malades vont passer, on va imposer les mains simplement. Imposons les mains, simplement. Pas besoin de prier longuement. Imposons les mains.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.